Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneau.
18h37 jusqu'à 19h, les débats de panorama sur Europe 1, le dérèglement climatique, la sécheresse, les tornades, la fin du monde. Doit-on croire à toutes les prédictions? Vous allez le voir, la fin du monde, on nous l'annonce au moins une fois par décennie. Le romancier Benoît Duterte s'est amusé à écrire une fiction dans laquelle la France retrouve son climat de 1960. Bonsoir Benoît Duterte.
Bonsoir.
Vous publiez Le Grand Rafraîchissement aux éditions Gallimard avec en bandeau cette jeune fille assise dans la neige en maillot de bain. C'est tout un programme. Ça doit être une photo des années 60. Ça,
exactement.
Non
bon, voilà, ça doit être glorieuse.
Une publicité, je pense. Bonsoir à vous, Antoine Houlou-Garcia.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur. Vous publiez aux éditions Albin Michel « Et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton ». Ce sont toutes ces petites histoires, ces petits mensonges qui ont fait l'histoire des sciences, comme quoi il ne faut pas croire à tout. Mais d'abord, bonsoir Capucine Patouillet.
Bonsoir Pierre.
Si l'on parle de croyances, revenons avec vous sur l'une des plus anciennes, celle de la fin du monde.
Oui, une des plus anciennes et des plus tenaces aussi, puisqu'il y aurait entre 180 et 250 annonces de fin du monde depuis l'effondrement de l'Empire romain, selon les historiens. En France, la première alerte remonte à 365 après Jésus-Christ. L'évêque Saint-Hilaire de Poitiers annonçait alors de l'arrivée sur Terre de l'Antéchrist. La plus récente, rappelez-vous, remonte au 21 décembre 2012 avec cette prédiction qui nous venait des Mayas et qui annonçait la fin du monde. Même des films catastrophes avaient été réalisés sur le sujet. Plus sérieusement, cette croyance a un nom scientifique, c'est l'eschatologie, du grec eschatos qui signifie extrême ou dernier, et logos, science, discours, c'est l'ensemble des doctrines et des croyances qui portent sur le sort ultime de l'homme après sa mort, mais aussi sur celui de l'univers après sa disparition. Et justement, en 2012, selon un sondage Ipsos Reuters auprès de personnes de 21 nationalités différentes, 15% de la population mondiale pense faire l'expérience de la fin du monde de leur vivant.
Bon, bah, ça nous donne un bon parcours. Cela dit, Saint-Hilaire de Poitiers, l'antéchrist, il n'a pas totalement tort, sinon on vivrait mieux, hein, je pense.
C'est un débat.
Ce qu'on ignore aussi peut-être aussi, c'est ce qu'il existe une horloge de l'apocalypse.
Oui, qui a été créée en 1947 au début de la guerre froide, régulièrement mise à jour depuis par les directeurs du Bulletin of the Atomic Scientist de l'Université de Chicago. À l'époque, le but c'était d'alerter sur la montée du péril nucléaire, mais avec le temps, les questions de dérèglement climatique, les pandémies, les fake news de l'intelligence artificielle se sont également mêlées au jeu et ont été prises en compte par les scientifiques, qui ont arrêté l'horloge l'année dernière à 90 secondes de minuit, minuit représentant l'apocalypse. 2023 qui aurait d'ailleurs dû être synonyme de fin du monde selon Alexa, l'IA d'Amazon qui a annoncé depuis plusieurs années la fin du monde pour le 23 novembre dernier à 18h05.
Bon bah ça veut dire qu'on est tous morts.
On est toujours là en attendant.
On est toujours là, ou alors on est en train de faire un remake de la série Lost où en fait voilà ça se termine. Enfin je suis en train de spoiler des trucs que les gens voudraient peut-être regarder. Benoît Duterte, ce grand rafraîchissement c'est de l'optimisme ou de l'antipessimisme?
Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est de l'optimisme. J'avais envie d'écrire un livre avec une fin heureuse où il se passe quelque chose qui va rendre le monde plus doux à vivre. Et c'est assez rare parce qu'en général, quand on écrit des anticipations, c'est souvent plutôt justement un peu apocalyptique. Mmh. Et je me suis dit, tiens, là, ça va être une espèce de retour du monde à une espèce d'équilibre qui n'a sans doute jamais existé, mais dont je peux rêver, moi, enfant des années 60, justement, d'une espèce de société bien tempérée. Donc voilà,
tous les sens du terme, parce que vous dites dans votre livre qu'en 1960, il y avait des vrais hivers où on circulait en montagne avec des voitures, comme sur des pistes de bobsleigh.
Voilà, c'est ça. Oui. Je retrouve des paysages de mon enfance, des photos de mon enfance, mais c'est aussi...
Il suffit de regarder au service secret de Sa Majesté pour voir qu'en 1970, effectivement, au fin fond du Valais ou de l'Oberland bernois, c'était des vrais hivers.
Et même dans les Vosges, où je passe une partie de l'année, où il y avait des murs de neige de chaque côté de la route. Mais en fait, soyons clairs, ce livre, c'est une fantaisie, hein, j'appelle ça fantaisie romanesque.
Mais c'est bien, ça fait du bien.
Donc ce sont des histoires inspirées par les obsessions de notre époque que j'essaie de tirer vers quelque chose d'extravagant et de drôle. En l'occurrence, s'il y a un sujet qui obsède notre époque, c'est effectivement celui du réchauffement. Donc je me suis dit, tiens, moi, je vais imaginer le rafraîchissement, mais pas le rafraîchissement qu'on a pu voir, vous savez, dans ce film Le Jour d'après, où tout d'un coup, on revient à cause de la désalinisation de l'eau de mer, de la perturbation du Gulf Stream, on revient donc à l'âge glaciaire. Moi, ce qui m'amusait, c'était d'imaginer justement le retour à l'âge tempéré et que cette ce tempérament du climat entraîne l'humanité vers une espèce de tempérament de la raison. Donc qu'on retrouve aussi une espèce d'équilibre dans les rapports entre hommes et femmes, dans les rapports entre ville et campagne, etc.
Se déconnecter un peu de son smartphone.
Voilà. Qu'on arrête cette espèce de fuite en avant, cette espèce d'angoisse propre à notre époque et qu'on retrouve une espèce de, voilà, de France imaginaire, un peu rêvée, un peu idéale, qui, je le répète, n'a sans doute pas existé telle quelle, mais voilà, qui était pour moi le... C'était au fond, voilà, rêver d'un monde futur qui ressemblerait à un monde du passé idéalisé.
Antoine Lou-Garcia, qu'est-ce que vous avez voulu prouver à travers votre livre, où effectivement, ça s'appelle « Et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton », c'est-à-dire que vous arrivez à décortiquer, tel un enquêteur de l'histoire, pour aller chercher des vérités qui sont comme du marbre dans notre cerveau, et pourtant vous les remettez en doute.
C'est exactement ça. Le projet, c'était effectivement de s'attaquer à toutes ces grandes histoires qu'on raconte aux élèves, dès leur plus jeune âge, qu'on raconte aussi dans les médias, dans les livres de vulgarisation, etc., qui structurent notre conception de la science, notre conception de l'histoire de la science aussi, et qui, en fait, me semble assez délétère. Parce que on nous raconte des gentilles histoires pour s'endormir, en quelque sorte, comme on le fait avec les enfants le soir. Sauf que la science, c'est pas ça. La science, c'est pas une religion. La science, c'est pas... Et son histoire non plus, c'est pas quelque chose...
C'est pas un dogme.
C'est pas un dogme, exactement. Et donc, il doit y avoir un esprit critique. Et je pense que à travers la déconstruction de ces mythes autour de l'histoire des sciences, qu'il s'agisse de Newton, d'Archimède, de Marie Curie, d'Einstein, etc., l'idée, c'est vraiment d'essayer de donner au lecteur la capacité de se dire « Ah, là, on me raconte une histoire qui, quand même, est tellement bien scénarisée que ça flaire le mauvais coup. Ça flaire la légende qui s'est imposée au fil des siècles, au fil des décennies, parfois, de façon très rapide. » Et donc, l'idée, c'est de dire au lecteur « Ok, quand on entend une histoire pareille, parce qu'il y en a d'autres, j'ai pas fait quelque chose d'exhaustif, ça aurait été beaucoup trop long, on peut se mettre en alerte et se dire « Attention, esprit critique, on se réveille, on essaye peut-être d'aller voir s'il y a des sources qui sont consultables, parce qu'on a de plus en plus la possibilité, même à travers Internet, pour le simple citoyen, d'aller consulter des sources historiques qui nous permettent déjà de voir qu'il y a des contradictions dans les histoires qui sont racontées. Par exemple, la pomme de Newton, selon Newton lui-même, il a vu tomber la pomme. Selon la légende qu'on raconte aujourd'hui et qu'on dessine souvent, elle lui serait tombée sur la tête. Donc déjà, ce petit écart qui est tout bête, il peut nous amener à réfléchir. Et pour moi, il y a une vraie volonté démocratique à travers cette déconstruction.
Pourquoi est-ce qu'on nous construit des légendes ? C'est la volonté de ce qu'on appelle en bon français le storytelling ?
C'est exactement ça. Le storytelling fait partie de l'histoire de la science, avant même que le mot, bien sûr, soit apparu en français. On l'a, par exemple, chez Pasteur, qui va s'intéresser donc au cas de la rage à travers ce vaccin qui a fait sa célébrité. Et Pasteur, lorsqu'il présente à l'Académie de médecine son premier patient vacciné en direct devant les académiciens, il ne vaccine pas seulement un patient, il vaccine un héros qui a sauvé, qui est un jeune garçon, qui a sauvé ses petits camarades d'un chien qui était manifestement enragé, etc. Et Pasteur va raconter tout ça avec une émotion, on a son discours, il a été retranscrit, va raconter tout ça avec une émotion telle que, effectivement, on est là, on est académicien, on a beau être académicien et donc scientifique, donc avoir un esprit critique, malgré tout, on se laisse emballer par le côté émotionnel de ce que Pasteur nous raconte.
Oui, alors c'est là où je vois un rapprochement avec Benoît Duteurt, c'est-à-dire que tous les deux, vous êtes, j'allais dire, des gens qui doutent, mais qui vous permettez quand même une petite brèche en se disant, après tout, la vie, ça n'est pas que religion, croyance, dogme, obéissance à un certain plan de vie qui sera le même pour tout le monde. Vous-même, sans vouloir trahir de petits secrets, Benoît Duteurt, vous passez quand même une partie de votre vie à trouver le meilleur œuf mayonnaise qui existe en France et peut-être ailleurs. On a le droit aussi, de temps en temps, de faire des écarts et de se dire, tiens, la vie, ça n'est pas que métro, boulot, dodo.
Oui, mais sur certains sujets, cela dit, c'est difficile parce que effectivement, le livre vient de sortir et je lis des choses très sympathiques, mais les gens commencent à dire ah mais alors vous êtes climato-sceptique, oui. etc. Bon, oui. Non, je suis pas climat.
C'est facile.
Je, comme tout le monde, je vois bien ce qui se passe. Je suis pas non plus idiot fermé, mais d'abord, est-ce qu'on a le droit de s'amuser avec un sujet aussi sérieux et aussi grave que celui effectivement du dérèglement climatique
livre.
Et voilà, c'est ce que j'ai voulu faire effectivement déjà dans ce sens-là. C'est une forme de contre-pied, s'y reprendre sur le plan de l'humour, peut-être pour dédramatiser un peu quelque chose qu'on vit tous quotidiennement d'une façon difficile. Mais c'est aussi effectivement contre ceux peut-être qui semble connaître l'avenir, connaître les solutions, savoir par avance comment tout ça va pouvoir se régler, et la transition énergétique, etc., etc. Bon, oui, sans doute, c'est probablement ce qu'il faut faire, mais j'imagine que peut-être, oui, et puis peut-être que dans deux ans, on va s'apercevoir que les températures arrêtent de monter, on ne saura pas pourquoi, et alors qu'est-ce qui va se passer ? Alors tout ce qu'on a construit pour lutter, tout d'un coup s'effondre. Dans mon livre, évidemment, ces constructions de champs d'éoliennes à perte de vue n'ont plus aucun sens, etc. Et tout est remis en cause, y compris dans nos adaptations. C'est aussi un des sujets du livre.
Un des sujets du livre où vous faites aussi intervenir du bon sens commun, où certaines suspicions s'ajoutent à la suspicion, comme cette vieille dame à qui on dit « mais non, mais il faut trier vos déchets ». Elle dit « oui, enfin, je crois qu'il remélange tout derrière ».
Il paraît qu'il remélange tout après. Est-ce que c'est pas vrai ?
Antoine Oulougarta, est-ce que vous êtes un frondeur ?
Alors, je pense qu'il faut être frondeur dans l'âme quand on veut faire de la recherche, quand on se prétend scientifique, ça me paraît nécessaire. Et c'est ce qu'on fait au quotidien dans la recherche. On prend les textes des autres, des prédécesseurs forcément, et puis on s'amuse à les critiquer quelque part.
Mais ça s'appelle détricoter, c'est-à-dire que vous remettez en cause des fondements qui parfois ont servi à d'autres fondements qui sont, j'allais dire, capitaux. C'est-à-dire qu'on a construit des autoroutes parce qu'on savait que tel revêtement serait meilleur qu'un autre. Et là, vous allez arriver, vous dites, mais en fait, pas du tout, ce revêtement provoque le verglas, il va y avoir des carambolages en masse.
Et c'est exactement comme ça que la science progresse, en critiquant ce qui a été fait avant. Pas forcément de façon frontale, de façon méchante, mais tout simplement dans la perspective d'améliorer les choses, parce qu'il y a des approximations. La physique newtonienne est une très bonne approximation, aujourd'hui en quelque sorte dépassée, mais on l'apprend quand même à l'école, on l'apprend encore à l'université, parce que malgré tout, la physique newtonienne a beaucoup de sens pour la vie réelle, la vie quotidienne. Après, si on va dans le très grand ou dans le très petit, ça marche moins bien. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'on a dépassé la physique newtonienne qu'on doit nécessairement la jeter à la poubelle. La science est aussi capable de s'accommoder d'arrangements intelligents parce qu'ils peuvent être performants.
Oui, ils peuvent être performants et en même temps, vous naviguez dans une remise en question parfois de la politique. Par exemple, vous parlez de la Grèce et vous dites, bah voilà, c'est pas forcément le système politique le plus carré qu'on ait connu.
Alors sur la Grèce, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'effectivement, on a cette tendance à croire que nous sommes les héritiers des Grecs pour tout, que ce soit pour la politique, la notion de démocratie.
D'ailleurs, vous remarquerez que les Grecs ne s'en privent pas, hein, de vous le dire, de vous rappeler. Moi, j'ai des amis grecs qui à chaque fois disent, ah ben, ça, c'est quand même grâce à nous.
Enfin, eux, ils ont le lien direct, hein, avec l'antique.
Mais vous savez que c'était une chose que les Grecs, donc ce qu'on appelle les Byzantins aujourd'hui, faisaient également au Moyen-Âge. Mmh. Ils s'arrogeaient le droit contre les autres, par exemple les Syriaques, etc., le droit de faire eux seuls de la philosophie et de la science parce qu'ils les avaient fondés. Ça, c'est faux. En particulier, on considère que les Grecs ont fondé la science à partir d'une prédiction d'une éclipse par Thalès, celui du théorème, qui d'ailleurs n'est pas de Thalès, le théorème, mais la prédiction de l'éclipse non plus. C'est-à-dire que, certes, il a sans doute prédit une éclipse, mais grâce à une méthode babylonienne. Et donc, si on veut considérer que la prédiction d'une éclipse, à l'époque, permet de sortir de la pensée magique, c'est-à-dire de la pensée où on a peur que le ciel nous tombe sur la tête, et qu'on se dit... l'éclipse, on peut la prévoir, donc c'est un phénomène purement scientifique et donc laïque. Si on veut dire ça comme naissance de la science, eh bien on doit l'attribuer aux Babyloniens, certainement pas aux Grecs.
Ça veut dire qu'il y a des appropriations, de la même façon qu'il y a des plagiats aujourd'hui, qu'on entend trois notes de musique et on se dit « mais tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part ».
Exactement, mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, dans ce cas-là, c'est que les Grecs de l'époque eux-mêmes, c'est-à-dire Thalès jusqu'à Aristote, ne considéraient certainement pas avoir été les inventeurs ni de la philosophie ni de la science.
C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus modestes que le piédestal qu'on leur fournit aujourd'hui systématiquement dans les salles de classe.
Exactement, ils avaient une vraie notion d'histoire des sciences. Ils savaient très bien qu'ils avaient emprunté énormément de choses aux Babyloniens et aux Égyptiens en particulier. Et c'est bizarrement à partir de l'après-Alexandre le Grand, c'est-à-dire la période qu'on appelle hellénistique, où il y a des grands royaumes de langue grecque et de culture grecque, que va se développer une sorte de nationalisme où on va commencer à avoir des premières traces d'attribution à Thalès, à Pythagore, etc., de théorèmes mathématiques dont on savait très bien avant qu'ils n'étaient pas deux. Et c'est de là que ça va venir. Donc, en fait, d'un nationalisme, on va créer cette idée selon laquelle nous sommes aujourd'hui les héritiers des Grecs. Et ça mène à ce qu'on va appeler de la guerre civilisationnelle. C'est pas forcément la meilleure idée pour faire de l'humanité.
Benoît Dutertre.
C'est un peu comme ça qu'on s'est construit aussi, dans l'idée qu'on était les enfants de la Grèce. Enfin, toute l'histoire de l'art et de la littérature européenne du Moyen-Âge et de la Renaissance, c'est ça aussi, non ?
La Renaissance, effectivement, à partir du XIIe siècle, avec la découverte de plus en plus forte d'Aristote, on a commencé à remettre ce lien. Mais il faut quand même voir qu'on a eu conscience jusque vers le XVIIIe siècle qu'on était aussi les héritiers des Arabes concernant les mathématiques, concernant l'architecture, concernant la science. On a énormément de mots arabes, d'ailleurs, dans ces domaines-là, c'est pas par hasard. Donc, on peut aussi très bien considérer que, on s'est raconté une petite histoire qui était fausse. L'histoire avec un grand H, c'est une science et ça consiste à aussi retravailler ces récits qu'on a crus. Par exemple, un récit comme dans l'identité nationale, nos ancêtres les Gaulois, on sait très bien que c'est une chose fausse qui a été inventée au XIXe siècle, le siècle des nationalismes européens, promulgué notamment par Napoléon III, par Jules Ferry ensuite, etc. C'est une chose qui n'a pas de sens et mieux vaut en sortir.
Vous voulez dire que l'identité nationale n'a pas de sens ?
Alors, elle peut avoir un sens, mais en tout cas, l'identité gauloise, elle n'en a pas pour nous. C'est juste
c'est-à-dire
ça
qu'il faut arrêter de dire qu'on est les descendants d'Astérix et Obélix, c'est ça ? Voilà, en tout cas, je parle pour les Français, parce que moi, je ne le suis pas. Mais
ça, effectivement, on n'est pas du tout les descendants d'Astérix et Obélix, de même que Obélix ne faisait pas de menhir, puisque c'était des populations préhistoriques qui s'en occupaient bien avant l'arrivée des Celtes en Europe.
Il fallait bien trouver quand même une petite narration. Donc, d'une certaine manière, Goscinny et Uderzo ont été, comme vous, Benoît Dutertre, se sont autorisés quelques fantaisies pour contourner la réalité. Il y a une chose dont vous vous occupez beaucoup, vous Benoît Dutertre, c'est la musique. Ouais. Vous êtes très à l'écoute justement de nouveaux talents via la Fondation Singer notamment, mais aussi parce que vous avez une discothèque et vous le dites, c'est un peu votre narrateur, mais enfin bon, ça va des Pink Floyd à Scriabine en passant par Scarlatti et d'autres. Et est-ce que s'il y a bien une chose qui est juste dans la vie, c'est la musique ?
Oui, bien évidemment. Enfin, on ne sait rien malheureusement de la musique des Grecs ou presque rien, mais la musique est très...
Mais il y a des recherches là-dessus, non ?
Il y a eu des grands travaux, notamment de Maurice Emmanuel au début du XXe siècle sur la rythmique grecque, la danse grecque, la musique grecque, mais on ne peut quand même que l'imaginer. Mais en fait, oui, vous faites allusion à ce passage sur la discothèque du narrateur. Ça, c'est quelque chose d'important dans le livre, parce qu'il y a l'histoire du grand rafraîchissement, mais qui est en alternance avec une espèce de journal de l'écrivain qui est moi, mais qui n'est pas tout à fait moi, qui est un type qui râle tout le temps. Et ce pauvre...
Je ne sais pas si vous râlez tout le temps.
Non, justement, moins que ça.
Ce soir, en tout cas, heureusement. Mais alors, c'est mieux pour l'émission.
Mais alors, ce grand mélomane, justement, passionné de musique, a une collection de disques immenses, et un jour invite son neveu à déjeuner, puis son neveu regarde tout ça, et lui, il est content, il est fier de montrer son trésor, le trésor d'une vie constituée avec son argent, etc. Et son neveu lui dit, ah putain, mais quand je pense que tout ça pourrait tenir dans le nuage...
Oui. Donc, le cloud.
Dans le cloud. Et il a constitué tout ça pour rien. Et finalement, tout ce qui était pour lui la plus grande valeur pour la génération d'après, ça n'est plus que des objets qui sont encombrants finalement et auxquels il peut avoir accès immédiatement n'importe où, partout et n'importe où. Et donc, il y a pas mal de réflexions dans le livre sur la perte de sens des bibliothèques et des discothèques, qui ont été les trésors d'une génération et qui ne sont plus rien quasiment pour la génération suivante.
Oui, alors cela dit, on dit que les CD ne valent plus rien, mais c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai un directeur artistique et musical d'Europe 1 qui me disait qu'il fallait garder ces CD parce que ça va être la même chose qu'avec le vinyle dans quelques années. On va les rechercher. Justement, vous, Antoine Houlou-Garcia, vous êtes de la nouvelle génération. Est-ce que les objets patrimoniaux auxquels on peut être sensible parce qu'on a une affection pour ça, est-ce qu'à un moment donné, ça va également être remis en cause parce que finalement, c'est un objet culturel. Est-ce que comme tout objet culturel, dans 100 ans, dans 200 ans, on va dire, tiens, on est passé à côté de quelque chose ?
Je pense que les objets, ça reste quelque chose qui est un lien affectif très fort et ça, il n'y a pas de raison de le casser en quelque sorte. Enfin, il y aura peut-être des modes qui évolueront, mais moi, ce que je trouve important, c'est que les objets culturels aient une valeur historique, parce que c'est d'autant plus intéressant quand ce sont des vrais objets. Parfois, alors là, on peut se tromper.
Ça, c'est marrant, ça, parce qu'une une vérité historique, qu'elle soit scientifique ou historique d'ailleurs, qu'elle soit écrite sur un iPad ou qu'elle soit écrite dans un vieux grimoire que mon ami Jérôme Delcamp vend chez Alt, par exemple, rue Guynemer, où c'est des livres hors de prix, parce qu'ils sont uniques et parce qu'ils ont été signés, etc. Là, en l'occurrence, c'est la même vérité historique. Et pourtant, vous vous dites qu'il y a quand même une valeur ajoutée.
Oui, parce que quand même, on sait bien qu'un livre, ne serait-ce que quand on reçoit, je pense que pour vous c'est pareil, quand on reçoit ces exemplaires auteurs, déjà on met le nez dedans parce que ça sent quelque chose. Donc il y a ce lien olfactif, il y a ce lien liens tactiles. Après, il peut y avoir des objets qui soient faux. Il y a eu des fausses lettres, par exemple, de Jules César au 19e siècle qui étaient produites.
Ça y est, on a retrouvé du faux. On a retrouvé du fake.
En fait, je trouve que c'est intéressant. C'est
ça qui l'amuse, Antoine Lou Garcia.
Mais oui, ça m'amuse parce que je trouve que ça révèle des choses de nous. C'est-à-dire qu'on est attiré par le faux. Ça nous plaît, ça nous fait fantasmer. Simplement, d'un point de vue intellectuel, c'est plus intéressant le vrai, parce qu'en fait, c'est plus fascinant. Les vraies histoires de comment une théorie a été découverte, la vraie histoire d'un document qu'on avait perdu, qui a été retrouvé dans une bibliothèque au fin fond de Constantinople, actuellement Istanbul, c'est des choses qui sont vraiment passionnantes. Il y a un côté enquête policière derrière le vrai. Quand on lit du Agatha Christie, on a envie de savoir qui est le vrai coupable.
Oui.
C'est un peu la même chose quand on fait de la science.
C'est pour ça que c'est mieux de regarder Columbo, parce qu'on sait qui est le coupable, mais on veut savoir comment est-ce que...
Merci beaucoup les amis. Benoît Duteurte, Le Grand Rafraîchissement, publié chez Gallimard, et Antoine Lou Garcia. Et La Pomme ne tomba pas sur la tête de Newton, aux éditions Albin Michel.